Bienvenue à cette émission de conférences pectorales. Aujourd'hui, le pasteur Jean-Marc Brochu enseignera sur la troisième pierre du pectoral, l'émeraude, qu'il a intitulée « La pierre du Lévite ».
Seuls, ils étaient revenus, ces Lévites, cette tribu-là en particulier, de leur propre gré à l'Éternel, et avaient prouvé leur zèle pour lui lorsque le peuple s'était parjuré, s'était confondu en péchant avec l'idolâtrie, en adorant le veau d'or. Vous vous rappelez peut-être ce passage dans l'Ancien Testament, cette portion d'histoire d'Israël. C'est dans Exode au chapitre 32, versets 26 à 29. Et finalement, Dieu va dire dans Nombre 18, 6, au sujet des Lévites, à tout le peuple d'Israël, il va leur dire, « Ils vous sont remis en don. » Et ça fait penser à un passage du Nouveau Testament. C'est dans Éphésiens chapitre 4 où l'apôtre dit que le Seigneur a fait plusieurs dons. On parle des ministères, dons ici qui sont majeurs, apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes. Et il y en a qui ont souvent comparé aux cinq doigts de la main. Hein? L'apôtre, le pouce qui soutient tous les autres, qui établit la base, le fondement. Et puis ensuite, le prophète, c'est le doigt qui pointe, qui dit les grandes vérités. Que des fois, on n'aime pas toujours entendre le majeur, l'évangéliste, qui va chercher les âmes, qui va sortir, qui va aller vers les nations, le doigt le plus long. Hein? C'est lui qui va chercher, qui court après les âmes, l'évangéliste. Il veut tous les sauver. On en connaît comme ça des évangélistes. La nuance, le doigt qui porte l'alliance, c'est le doigt du cœur, le doigt le pasteur qui aime son peuple, ses brebis, qui doit les paître avec passion, avec amour et dévotion. Et finalement, le plus petit, mais non le moindre, le petit doigt, l'auriculaire, il va dans l'oreille justement parce qu'il est plus petit, plus facile d'aller dans ses canaux un peu réduits, un peu étroits. Et ça lui permet d'aller où les autres ne vont pas. Et c'est le docteur, pense-t-on, celui qui va éplucher, va profondément étudier les Écritures et en apporter ses richesses et ses révélations. C'est ce que nous espérons faire avec cette étude sur le pectoral aujourd'hui. Merci de votre écoute et de votre participation à ces émissions. Alors, évidemment, il y a différents dons et différents appels, comme on le voit ici, et les responsabilités, donc, ne sont pas les mêmes pour tous. Dans un sens, Dieu aura toujours besoin de quelqu'un pour son service. Il y a un passage particulier que nous trouvons dans le livre des Juges, au chapitre 5, verset 23, qui dit ceci. « Maudissez Méroz, dit l'ange de l'Éternel, maudissez ses habitants, car ils ne vinrent pas au secours de l'Éternel, parmi les hommes vaillants. » Waouh, c'est fort ça! Un peuple, des individus sont maudits parce qu'ils ne sont pas venus au secours de l'Éternel. Est-il possible de venir au secours de Dieu? Il semble que oui, la Bible le dit. Et je pense qu'il faut des dispositions, des bonnes dispositions. Je pense que, comme il a dit, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Bien, c'est merveilleux quand quelqu'un répond à l'appel et fait la volonté et le service de Dieu pour être utile à son œuvre et à son royaume. Oui, il a besoin des ouvriers. Et il a dit lui-même, le Seigneur, priez pour, parce que la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson parce qu'il y en a besoin. Alors, il faut le faire, on l'a fait, Dieu a envoyé des ouvriers et ça se continue dans le temps et l'histoire. Je souhaite que vous en soyez un, appelé et à son service. Alors, le Seigneur dit un jour à l'apôtre Pierre qu'il bâtirait son église, ecclésia en grec, un mot dans lequel on trouve entre autres kaléo, appelé, et au substantif klesis, qui signifie appel aussi. L'appel de Dieu veut atteindre plusieurs, mais la réponse vient d'un nombre limité, comme on a dit. La version de Bible Parole Vivante traduit 2 Pierre 1, 10 ainsi. Mes frères, Dieu vous a choisi, vous a appelé, ayez donc d'autant plus de zèle pour confirmer et affermir par votre vie, hein, cette vocation et cet appel. Il y a donc cette possibilité de confirmer et d'affermir notre appel, ton appel. Léa prophétisa peut-être lorsqu'elle a appelé son, troisième enfant, Lévi, qui signifie attachement. Genèse 29, 34. Puisque plus tard, Dieu en parlera à Aaron ainsi, la tribu de Lévi, qu'il te soit attaché et qu'il te serve. Lévitique 18, versets 2 à 4. Alors, leur zèle pour réprimer l'idolâtrie du veau d'or confirmait leur appel. Vous avez une référence dans Malachie 3, 18. Mais Christ a enseigné que l'on ne pouvait servir deux maîtres, Dieu et Mammon. Mammon, une personnification de la richesse. Hein? Un choix, alors, doit être fait. S'attacher à l'un et mépriser l'autre. Et dans l'affaire du veau d'or, bien, les Lévites ont dû vraiment prendre des décisions et ils ont été radicales. Ils devaient tuer même de leur propre famille idolâtre dans ces temps particuliers-là. Exode 32, versets 15 à 29. Dans sa bénédiction sur cette tribu, Moïse déclare sur eux, « Lévi dit de son père et de sa mère, je ne les ai pas vus. Il ne distingue pas ses frères. Il ne connaît pas ses enfants. » Car ils observent tes paroles et ils gardent ton alliance. Deutéronome 33, 9. Alors, ce même renoncement a bien été enseigné par le Seigneur. Il dit parfois, il dit des choses vraiment dures et sévères de l'aimer lui plus, en fait, que ses parents, sa famille. Et que si on ne fait pas ça, si on ne porte pas notre croix, on n'est pas digne de lui. C'est un Seigneur exigeant lorsque nous rentrons dans cette ce qu'il demande dans son appel, dans l'ensemble de son appel. C'est le prix, donc, si nous voulons porter notre croix, alors que nous serons souvent incompris et persécutés, même par nos proches, justement, par nos familles qui ne comprennent pas toujours cela. La consécration, suite à l'appel donc des sacrificateurs, ils devaient d'abord être consacrés avec un lavement, non? Ils passaient par un lavement physique, on parle là, physiquement d'abord. Ensuite, il y avait l'onction d'huile particulière, avec une huile très particulière, et une sanctification exigée, une séparation, une pureté qui faisait d'eux un peuple vraiment à part, une catégorie du peuple vraiment à part. Exode 28, 1 et les versets suivants, au chapitre 40, versets 12 à 16. Alors, l'onction d'huile symbolisait l'onction du Saint-Esprit. Alors, on est tout près du jour de la Pentecôte en ce moment, donc c'est rapport avec cela, le déversement de l'Esprit Saint hein, sur les disciples. Et cette onction était de grand prix, d'une grande fragrance spirituelle incroyable. Elle ne pouvait être répandue sur n'importe qui, Exode 30, verset 23 à 33, les Lévites lors de leur consécration, quelque peu différente des sacrificateurs, après avoir été purifiés, étaient tournés de côté et d'autre comme une offrande devant l'Éternel. On les secouait un peu, on les faisait tourner de côté et d'autre. Un peu particulier ça, hein? Alors, il faut qu'il y ait ce parfum, cette fragrance, il faut que ça plaise à Dieu dans les actions des sacrificateurs, dans leur présentation devant Dieu et leur service. Ensuite, voyons le rôle, un rôle de médiation des prêtres était, c'était dans leur fonction et avec l'intercession, bien, ils faisaient également fonction en tant que prêtre et le souverain sacrificateur ici, dans cette fonction-là. Jésus-Christ a accompli la plénitude de cela dans son rôle de médiateur et intercesseur continuel maintenant au ciel. Hein? La première épître de Jean, chapitre 2, versets 1 et 2, nous parle de lui comme un avocat. Si on a péché maintenant qu'il est vivant, qu'il est ressuscité, monté à la droite de son Père, il est un avocat auprès du Père, dit-il dans cette référence-là. Pour ceux qui ont péché, qui veulent, sont conscients de cela, et confesser leur péché et demander pardon et continuer de se sanctifier et d'obéir et de plaire au Seigneur. Alors, les croyants du Nouveau Testament intercèdent par leurs prières et cela peut faire la différence entre les morts et les vivants, comme c'était dans les histoires qu'on voit dans l'Ancien Testament, par exemple dans Nombre 16, versets 46 à 48. Alors, ça peut être pour un individu, ça peut être pour une ville, ou ça peut être pour une nation entière. Luc 22, 32, Jérémie 29, 7, 2 Chroniques 7, 14, pour ceux qui prennent les références. Au sujet des vêtements, c'était leur insigne. Chaque détail de leur confection venait vraiment de Dieu. La Bible Louis II dit au sujet des vêtements du souverain sacrificateur, Exode 28, verset 2, « Tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés pour marquer sa dignité, pour lui servir de parure. » Déjà, les bonnets ou tiares viennent d'un verbe signifiant « élévation », et en étudiant d'autres références comme Ésaïe 61, 6, ça dériverait d'une famille de mots signifiant « rendre beau, glorifier ». Il y aurait beaucoup de choses à dire sur ces détails vestimentaires lévitiques. Parlons de l'héritage lévitique. Bien, ils avaient une possession perpétuelle, cette tribu de Lévi, dans Exode 25, 33, 34. Ils étaient exempts d'impôts et péages, Strass 7, 23, 24. C'est ce qui s'est appliqué dans nos sociétés modernes avec ce droit d'exemption d'impôts pour les religions, la religion majeure en tout cas dans l'histoire et les branches qu'il y a eu en tout cas. Ils recevaient la dîme dans l'Ancien Testament de toutes les tribus, Deutéronome 12-19, et eux-mêmes, donc les Lévites, la tribu de Lévi, et eux-mêmes redonnaient leur dîme aux sacrificateurs. Nombre 18, 26 à 28. Le principe de cette base de dons pour l'œuvre de Dieu peut être pour les croyants de la Nouvelle Alliance vraiment un bon départ, quoique le Nouveau Testament ne l'exige pas catégoriquement, mais il exhorte toutefois à la libéralité. Il y a plusieurs passages, je peux vous en donner quelques-uns. 1 Corinthiens 9, 9 à 14, 2 Corinthiens 9, 6 à 9, Galates 6, 6 à 10, Romains 15, 27, 1 Timothée 5, 17 à 18. Les Lévites étaient nourris des sacrifices offerts à Dieu, des portions qui leur étaient désignées.
Ces mots que nous terminons au sujet des Lévites. Nous avons vu le nom de Lévi sur l'émeraude, la troisième pierre du pectoral, ce qui nous a conduit à approfondir cette étude au sujet des Lévites. En terminant, nous vous rappelons que le pectoral était cette plaque carrée portée par le Kohen Gadol, le grand prêtre ou souverain sacrificateur. Il était porté sur sa poitrine, un objet d'environ un empan par un empan, c'est-à-dire l'extrémité du pouce à l'extrémité du petit doigt, la main ouverte. Et donc, il était porté par-dessus tous ses autres vêtements. Et il était dit dans Exode 28, versets 15 à 21, « Tu feras le pectoral du jugement artistement travaillé. Tu le feras du même travail que l'éphod. Tu le feras d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors. Il sera carré et double. Sa longueur sera d'un empan et sa largeur d'un empan. Tu y enchasseras une garniture de pierre, quatre rangées de pierre. Première rangée, une sardoine, une topaze, une émeraude. Seconde rangée, une escarboucle, un saphir, un diamant. Troisième rangée, une opale, une agate, une améthyste. Quatrième rangée, une chrysolite, un onyx et un jaspe. Ces pierres seront enchâssées dans leur monture d'or. Il y en aura 12 d'après les noms des fils d'Israël. Elles seront gravées comme des cachets, chacune avec le nom de l'une des 12 tribus. »
Bien, chers auditeurs, c'est déjà la fin de l'émission. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. À cette occasion, le pasteur Jean-Marc Brochu enseignera sur la quatrième pierre du pectoral, l'escarboucle. Pour info, vous pouvez consulter notre site Internet à cette adresse www.conférencespectorale.org. Vous pouvez également voir notre local d'exposition de nos maquettes de l'histoire d'Israël à l'adresse arcexposition.wordpress.com. Et vous pouvez joindre Jean-Marc à l'adresse courriel pectoralia@commercial.com. gmail.com